Vivre dans le mensonge. Trois exemples. Premier exemple, j'ai souvenir, lors d'une assemblée extraordinaire à l'ONU, à New York, un ministre des États-Unis brandir une petite fiole. Il dit, voilà la preuve des armes de destruction massive en Irak. On sait que c'était un mensonge. On en subit aujourd'hui les conséquences encore. Des millions d'hommes et de femmes, là-bas, mais ici aussi, subissent les conséquences de ce mensonge. Plus récemment, le 8 janvier, un Boeing 737 ukrainien s'écrase quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Téhéran, y faisant 176 victimes civiles. Après l'assassinat décidé par Donald Trump du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier, le monde entier soupçonne des représailles se trompant de cible. Et malgré les preuves s'accumulant dès le 8 janvier, les officiels iraniens et la télévision iranienne persistent pendant plusieurs jours à nier l'évidence. Les boîtes noires sont retrouvées de ces avions et devant la perspective d'une commission d'enquête internationale, le régime est obligé de céder et de reconnaître que ce sont bien des missiles iraniens qui ont abattu par erreur l'avion. Trois présentatrices, vedettes des télévisions d'État iraniennes, ont démissionné pour avoir soutenu l'inverse avec assurance. Et l'une d'elles, très populaire en Iran, qui s'appelle Golore Jalabari, a écrit dans son compte Instagram « Ce fut pour moi très dur d'admettre que notre peuple a été tué. Pardonnez-moi de l'avoir su si tard, pardonnez-moi de vous avoir menti pendant 13 ans. » Et vous avez sûrement lu dans les journaux ou à travers la télévision tous ces titres, « Iran, la République islamique ou l'Empire du mensonge, l'Iran en révolte contre le mensonge. » Il y a eu plusieurs articles de mobilisation. De tout temps, le mensonge est à la base de l'oppression. Et les textes de ce dimanche insistent là-dessus. Dans l'Ancien Testament, ce texte que vous connaissez maintenant par cœur, le serpent de la Genèse ment pour instaurer une rivalité entre l'humanité et Dieu. Le diable au désert ment à Jésus pour essayer de le détourner de sa vocation de fils unique du Père. Alors voyons comment et pourquoi ce mensonge continue de courir dans nos tentations d'aujourd'hui. Le mensonge des origines. C'est le Journée internationale de la femme, donc je ne vais pas vous dire, voilà, le mensonge est entré par rêve. Le serpent, comme nous dit le texte, est rusé. Et il sait bien qu'il suffit de tordre légèrement une parole pour lui donner toute autre signification, comme quelques dixièmes de degré peuvent changer de quelques mètres la trajectoire d'une balle. Alors, je voudrais rappeler et redire ce que dit le texte. Les mots mêmes de Dieu. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. C'est ce que dit le texte, c'est ce que dit Dieu. Mais si vous ne faites pas attention, vous ne vous rendez pas compte que le serpent transforme presque de manière imperceptible cette parole. Je redis ce que dit le serpent. Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin. La différence est grande. Vous ne mangerez pas de cet arbre, mais vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin. Et cet interdit n'est pas castrateur, contrairement aux apparences, il fonde, au contraire, la relation au monde et aux autres, en passant par une limite salutaire. Comme le soulignait Lacan, l'interdit en français est ce qui est dit entre deux sujets. Vous voyez comment ça est écrit le mot interdit ? Si vous mettez, vous séparez inter, dit, entre deux personnes, c'est la relation qui fonde quelque chose. Et lorsque cet interdit est transgressé, en respectant une certaine distance, lorsque cet interdit transgressé, il y a effectivement des morts physiques, psychologique, spirituel. C'est le sens de l'avertissement divin. Si vous mangez de ce fruit-là, les autres sont possibles, mais si vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez non pas par la suite d'un quelconque châtiment divin, mais par conséquence de votre déni de relation. L'interdit de Dieu au jardin d'Éden était une mise en garde paternelle. Attention, ce fruit est mortel, n'y touchez pas. Un peu comme on avertit les ramasseurs de champignons. Je ne sais pas s'il y a des ramasseurs de champignons ici. On dit bien, attention, tu peux ramasser tous les champignons que tu veux, mais ne ramasse pas d'amanite phalloïde. Sinon, tu en mourras. Le serpent transforme cet interdit salutaire en censure générale. Et il sous-entend que Dieu ferait périr les transgresseurs, alors que la transgression porte en elle-même, en fait, le fruit de la mort. On le voit, même chez les jeunes skieurs. Vous savez, il y a des pistes qui sont balisées en détention, il faut rester sur ces skis. Il y en a qui aiment le hors-piste. Mais se mettre hors-piste, c'est parfois se mettre hors-vie. Le deuxième mensonge vient d'Ève à son insu, elle ne s'en rend pas compte. Elle est troublée, déstabilisée par les insinuations du serpent. Elle défend Dieu en rappelant qu'un seul arbre est interdit. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre lecture, elle se trompe d'arbre. Elle dit, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Or, l'arbre qui est hors d'atteinte n'est pas celui-ci. Au milieu du jardin est l'arbre de la vie, alors que Dieu désigne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non seulement la vie n'est pas interdite, mais elle est abondamment disponible et offerte au milieu de ce jardin. Par contre, connaître le bien et le mal, décider à la place de Dieu ce qui est bien, ce qui est mal, voilà qui est suicidaire, et dont nous devons nous abstenir sous peine de nous faire périr nous-mêmes. Et le serpent va exploiter à fond cette confusion d'Ève. « Pas du tout, dit-il, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce message est ici proprement diabolique puisque le but est vrai. Et le chemin pour y arriver est mensonger. Notons que ce n'est pas la connaissance en général qui est interdite, mais la connaissance du bien et du mal. Nous sommes les acteurs de la connaissance, pas les auteurs. Il n'y a rien de plus terrible dans la religion, dans la politique, dans le syndicalisme, que celui-ci, celui qui pense ce qui est bien et ce qui est mal, et qui vous oblige à abdiquer par rapport à ce que lui considère ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, les conséquences de ce double mensonge partagé avec Adam sera l'obligation de se dissimuler sans cesse. Impossible désormais d'être nus l'un devant l'autre en vérité, car le mensonge est venu s'insérer dans le regard en y introduisant la convoitise, la rivalité, l'envie de prendre et la violence qui l'accompagne. Voilà ce vers quoi nous avertit ce texte de la Genèse. Et c'est dans cette lecture-là qu'il faut le prendre, non pas comme quelque chose d'historique, hein, premier jour, deuxième jour. C'est un apprentissage de ce qu'est la vie pour chacun de nous. Et comme en écho vient donc le fameux diable des 40 jours avec Jésus. Dans l'Évangile, le diable recourt à la même ruse du mensonge que le serpent de la Genèse. Par trois fois, il essaiera de s'appuyer sur la dignité de fils de Dieu, sur une citation de l'Écriture, souvent partielle, et le faire dire l'inverse de leur intention originelle. Le diable fait mentir l'Écriture en suggérant à Jésus qu'elle l'autoriserait à assouvir sa convoitise de nourriture. « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, de pouvoir miraculeux. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à des anges. Tout cela, je te les donnerai si tu tombes à genoux à mes pieds et tu te prosternes. » Par trois fois, Jésus détord cet usage malhonnête de la parole de Dieu en appliquant ce qu'on appellerait aujourd'hui un principe de cohérence. On ne peut pas faire dire à un verset ou à un concept quelque chose qui contrarierait gravement l'ensemble des Écritures. Et c'est pour ça que je suis souvent choqué comment, dans certaines sensibilités d'Église, on se balance des versets bibliques comme on balance une pierre à la figure de quelqu'un. Sorti de son contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. Pour l'ensemble de la Bible, la fin spirituelle est plus fondamentale que la fin physique. Le pouvoir miraculeux est pour guérir et sauver les faibles, et non pas par intérêt égoïste. La gloire est donnée par Dieu et non conquise par l'homme. Les tentations de ce dimanche de carême reposent sur le mensonge, d'où l'intérêt de discerner les mensonges qui irriguent actuellement notre vie personnelle, notre vie collective. Collectivement, j'ai déjà cité les différents régimes fondés sur le mensonge permanent, pas simplement le mensonge d'État, comme le Boeing abattu ou ce qui s'est passé en Irak, mais un mensonge sur l'homme qui est bien plus difficile à éradiquer. Ce mensonge, ce qui s'est passé en Iran, ce mensonge islamique a pris le relais du mensonge aussi communiste avant. Hein. À l'Est, pendant le XXe siècle, Solzhenitsyn avait averti ses concitoyens de l'État que l'État soviétique mentait sur pratiquement tout, les goulags, les résultats économiques, les succès sportifs, la liberté religieuse, la pauvreté, les libertés individuelles. Dans tous ces domaines, une propagande officielle aveuglait jusqu'à l'intelligentsia occidentale, fascinée par cette utopie égalitaire. Est-ce que aujourd'hui, en Russie, ce que dénonçait Solzhenitsyn fait partie du passé? Si on prend le dopage dans le sport, par exemple, dans le reste, il a fallu attendre les chars du printemps de Prague, aux témoignages des déportés, jusqu'aux archives sur les famines, les tortures, les millions de morts, jusqu'aux grèves de Gdansk ou de RDA, nul ne pouvait imaginer avant 1989 que le colosse communiste avait des pieds d'argile et qu'il allait bientôt s'écrouler. Il en sera de même pour tous les régimes actuels fondés sur le mensonge. On le voit un peu partout. Moi, ça me laisse assez dubitatif parce qu'il n'y a aucune concertation. Mais ce besoin de vérité ressort d'une force extraordinaire. On ne peut plus accepter les régimes mensongers. Et en particulier, là où c'est sort de manière la plus forte, c'est dans les pays qui ont vécu sous la dictature. Que ce soit dans les pays d'Amérique latine, dans les pays du Moyen-Orient, en Algérie, depuis ça fait un an, tous les vendredis, il y a ces manifestations, au Maroc, un peu partout, ces besoins de vérité. Alors, la chute du régime soviétique n'exonère pas pour autant les sociétés occidentales. Parce que les sociétés occidentales aussi sont minées de l'intérieur par un certain mensonge sur l'homme. La personne humaine dans la Bible fonde la dignité, et cette dignité, ce n'est pas l'individu néolibéral. Le corps humain n'est pas une marchandise à disposition. Réussir dans la vie n'est pas la même chose que réussir sa vie. Accumuler sans cesse ne rend pas plus heureux. La croissance économique n'est pas innocente de la dégradation de la planète. Faire passer le droit avant le bien est fondamentalement injuste. Vous savez qu'il y a un mensonge qui frappe de manière forte les hommes et les femmes qui économiquement portent Saint-Gall. C'est la ville dans toute la Suisse où il y a le plus de consommation de cocaïne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude fédérale, helvétique. La cocaïne, c'est une illusion, c'est un mensonge auquel il faudrait être attentif. Et tous ces mensonges génèrent une violence sociale, une violence sourde, imperceptible, et qui finissent souvent par exploser. Et l'Église elle-même n'est pas exempte des mensonges graves et qui parsèment toute son histoire, hélas. Dans nos vies personnelles aussi, le mensonge est à l'œuvre. Nous nous sommes parfois habitués. Et il nous faut un choc extérieur pour en prendre conscience. Que ce soit une lecture qui peut nous dévoiler nos petits arrangements avec la vérité. Et c'est là où les différents exemples bibliques m'interpellent. Jean-Baptiste, par exemple, qui reproche à Hérode d'avoir pris la femme de son frère. Le prophète Nathan, qui dénonce David d'avoir pris Bethsabée à son mari qui l'a fait tuer à la guerre. Une rencontre peut nous ouvrir les yeux sur les faux discours dont nous couvrons nos intérêts. Je crois que le témoignage des rescapés des camps de la mort nous parle de cette vérité. Les insinuations du serpent de la Genèse peuvent prendre tant de visages aujourd'hui. Il y a les déformations de la vérité par le diable des 40 jours de Jésus au désert qui peuvent nous paraître si appétissantes. Difficile de résister aux mensonges sans se faire aider. Un accompagnement spirituel délicat, de vrais amis osant dire les choses, une exigence intellectuelle et spirituelle à partager avec d'autres. Le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur, mais le mensonge. au sens diabolique du terme. Le mensonge, le diable, c'est diabolein, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, diabolein en grec, c'est jeter en dispersant. Et les humains, en fait, sont jetés en les dispersant entre eux et contre Dieu. Alors, voilà, au moment où nous entrons dans ce temps de carême, nous sommes dans ce temps de carême, c'est le moment du recueillement et d'être à l'écoute, d'entendre. Et pendant ces 40 jours, comme Jésus, asseyons-nous et relisons tranquillement les grandes convictions qui animent notre course de vie, chacun. Où le mensonge pourrait-il s'y nicher, de manière consciente ou non? Qui pourrait m'aider à y voir plus clair? Suis-je résolu à ne jamais m'habituer à vivre dans le mensonge, comme l'écrivait Solzhenitsyn? Pour cela, j'ai besoin de la prière, de la méditation et du silence. C'est ce cheminement qui me permet de me regarder, de regarder le monde dans lequel je vis, dans la vérité. Puisse le Seigneur nous accompagner pendant ce temps pour regarder les choses de manière toute simple, que le danger qui nous menace, ce n'est pas le coronavirus, mais le mensonge. Le coronavirus, il suffit de se nettoyer, ne plus se toucher, ne plus s'embrasser, trouver un vaccin. Il n'y a pas de vaccin contre le mensonge, si ce n'est la prière et la méditation des Écritures. Amen.